France Inter, le 18-20.
Pour moi, c'était le samedi matin, je m'en souviens, parce que c'était un peu la boule au ventre avant d'entrer en classe, la dictée du samedi, à peu près aussi pénible que le piano du mardi soir, l'exercice austère et disqualifiant quand on n'est pas bon. J'en ai gardé personnellement une écriture souvent illisible qui permet d'écraser élégamment les E et les A avant les WM, par exemple. L'orthographe, une gourmandise pour les uns, un terrible marqueur social pour les autres, un concentré de faiblesse, un exercice typiquement français aussi, sans doute parce que le français est atypique, effroyablement ou joyeusement compliqué. La dictée, donc, après être passée par la case ringarde, est en train de revenir en grâce. Tous les ministres et l'actuel en tête ont voulu et veulent la remettre au goût du jour et au quotidien dans les classes. La dictée de Pivot avait eu un succès considérable. Les dictées géantes organisées par un de nos invités sont aussi extrêmement populaires. Vous êtes très nombreux à adorer ferrailler avec le français, rencontrer des mots quitte à les écorcher. Et alors ? Alors vous, dont le meilleur ami est le correcteur d'orthographe, vous qui savez qu'on dit un effluvé, une omoplate, vous qui êtes amoureux des mots, vous qui êtes fâché avec le subjonctif, cette émission est faite pour vous. Nous sommes en partenariat avec le magazine Le 1 ce soir, avec grand bonheur. Soyez les bienvenus et parlez sans crainte.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Bonsoir Paul, vous êtes dans le Gers et on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous.
Et on vous écoute, bon, Paul.
Je m'enorgueillis, j'ai bien le droit, de n'avoir jamais mis un zéro en dictée.
Bravo.
Quel que soit le nombre de fautes.
Et pourquoi alors? Parce que vous faisiez exprès de ne pas en compter trop, parce que vous saviez que ça pouvait être un peu humiliant, ou simplement parce que vous avez eu des bons élèves en orthographe en face de vous, après
non,
tout?
Pas du tout, pas du tout. Exemple, 65 fautes et une dictée.
D'accord.
Ça fait moins 130, selon la notation complètement absurde qui a cours.
Et comment vous vous en sortiez du coup, Paul?
Alors, je lui ai mis 5 sur 20.
Okay.
Au lieu de moins 130. Tout content, il s'est mis à travailler, puisqu'il avait un bon manuel avec des fiches autocorrectives. Et au bout de 10 jours, une collègue me dit, qu'est-ce que tu as fait à celui-là? J'ai dit, ben, je l'ai mis au travail. Parce que on ne le lisait pas. Et 10 jours après, on le lisait. C'est tout bête.
Mais du coup, ce que vous êtes en train de nous expliquer, Paul, et ce sera tout le thème de certaines discussions qu'on aura, je l'imagine, ce soir, c'est qu'il y a un côté très humiliant, très disqualifiant, en fait, quand on fait beaucoup de fautes. Donc l'idée, comme vous le faisiez lorsque vous étiez enseignant, d'éviter de pointer du doigt, de stigmatiser les enfants qui font pas assez de fautes, c'est ça que vous, qui font trop de fautes, c'est ça que vous vouliez faire?
35 fautes, 7 sur 20. Et au bout d'un an, j'ai eu des élèves qui passaient de 35 fautes à 5 fautes.
Donc vous avez réussi votre coup et votre métier. Merci beaucoup Paul et merci pour cette entrée en matière qui nous place vraiment dans le sujet qui sera le nôtre jusqu'à ce soir 20h pour en discuter autour de la table. Rachid Santaki est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, scénariste, romancier. C'est vous qui organisez les fameuses dictées géantes et on va y venir dans un instant. Alain Bentoli, là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes linguiste, professeur à l'université Paris Descartes. Je voudrais revenir à ce que disait Paul, Rachid Santaki par exemple. C'est vrai que c'est la honte, quoi, quand on fait plein de fautes. Et c'est important, du coup, que ce prof ait bien montré que, bah non, on pouvait se débrouiller avec la note. Mais il y a toujours cet effet-là avec une dictée, en fait. Il y a quelque chose de, parfois, extrêmement disqualifiant.
Excluant.
Excluant.
La dictée, en fait, quand on l'apprend dans le cadre de l'école et l'évaluation qui passe par la note, quand vous êtes en apprentissage et que vous êtes bon, ça se passe bien. Mm. Par contre, quand vous arrivez avec un 0 sur 20, bah, c'est vécu comme une sanction. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens, puisque j'organise donc la dictée géante. Et la dictée géante, en fait, l'évaluation, c'est celui qui fera le moins de fautes qui gagne. Et du coup, tous ceux qui participent sont valorisés à partir du moment où vous valorisez, ce que disait l'auditeur, enseignant également, c'est que vous encouragez, et ça donne envie. Donc c'est un peu valable dans d'autres domaines, c'est comment donner envie et encourager. Et non pas exclure à partir du moment où vous êtes exclu, bah forcément, on s'éteint.
Alain Mentolila, est-ce que c'est un muscle? Alors, aussi, c'est, d'ailleurs
c'est, enfin, l'auditeur a posé d'emblée la question qu'il fallait poser, c'est-à-dire, est-ce que la bienveillance, qui est l'accompagnatrice de l'acte pédagogique, est simplement de la complaisance ou est-ce qu'elle est aussi, est-ce qu'elle fait couple avec l'exigence? Parce que la question est celle-là. Si vous voulez faire avancer un élève ou un jeune adulte, alors il va falloir à la fois pointer l'erreur, parce que l'orthographe, c'est ça, c'est juste ou c'est faux. Et pointant cette erreur, on va s'appuyer sur cette erreur pour tenter de lui donner une explication, de le faire travailler là-dessus.
Mais est-ce que c'est un muscle, l'orthographe et la grammaire, au final? Si on le travaille, est-ce qu'il finit par être plus efficace?
Non. D'abord et avant tout, il faut qu'on comprenne, qu'on fasse comprendre ce que c'est que l'orthographe. Il faut faire comprendre, d'ailleurs, aussi ce que c'est que la grammaire. Mmh. Moi, quand j'ouvre mon cours dans mon amphi, sur un Master 2 qui s'appelle Sens et Syntaxe, Syntaxe et Sens, je commence toujours, c'est une espèce de rituel, je leur dis, vous savez, en venant, j'ai vu un chou qui dévorait une chèvre. Alors ils me regardent, ils me disent, qu'est-ce qu'il raconte? On est bien tombé, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je les laisse mariner un peu. Alors il y en a un qui me dit, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Vous savez bien que les choux ne mangent pas les chèvres. Je lui dis, oui, bien sûr, les choux ne mangent pas les chèvres. Mais je peux dire et vous faire rentrer dans vos intelligences que le chou mange la chèvre. Et ça, c'est la force de la grammaire. S'il n'y avait pas de grammaire, on serait dans un monde complètement banal. Plus rien, si vous voulez, ne sortirait du lot. Parce que tout ce qui est attendu serait dit. Et tout ce qui est dit est attendu. Et donc, vous voyez, c'est ça le sens. Il faut faire comprendre aux élèves pourquoi. La grammaire, c'est pas un... C'est pas juste une contrainte. L'orthographe, c'est pas juste une contrainte. L'orthographe, ça sert à quelque chose.
Et sortir de la contrainte, Rachid Santaki, c'est ça l'idée. Quand on sort de la contrainte, on rentre dans le plaisir aussi.
Exactement.
Ça va ensemble.
Alors, du coup, moi, je suis pas tout à fait d'accord. On parlait de muscles, de gymnastique, la dictée pour moi. Et je l'ai vu. C'est quand on la pratique régulièrement, on fait des fautes, mais on se nourrit, on avance, on progresse. Donc, effectivement, il y a des règles, on n'échappe pas aux règles. Mais de se confronter à l'exercice, de faire la faute, de comprendre, on évolue. Donc je le voyais plutôt, je fais souvent quand j'interviens la comparaison avec une pratique régulière, avec un entraînement, des acquis,
vous
et donc une évolution.
Vous avez parfaitement raison.
Je fais parallèle avec le sport, c'est pour ça que j'étais un peu surpris.
Et là-dessus, moi je rejoins Jean-Michel Blanquer, il a raison de dire régulièrement il faut faire l'exercice. Des dictées. À condition que la dictée soit un tremplin et non pas un trou. Oui. C'est-à-dire qu'il faut absolument que, d'abord par exemple, distinguer deux choses, et
allez-y.
J'arrête là.
Allez-y, allez-y. Point.
Distinguer la faute grammaticale. Aucun nom au pluriel ne prend NT.
Mm-hmm.
Bon. Par contre, le verbe au pluriel prend toujours NT, quel qu'il soit. Bon. Ça, ce sont des on peut expliquer ça à un enfant et il le comprend. De P1P, ENAN, etc., ça ne s'explique pas.
Il y a quelques règles.
Oui.
Tous les mots commençant par AP prennent 2P, sauf apercevoir, aplatir, aplanir.
Oui. Avec
j'ai dit au reste.
A plus 2P, mais il y a plein d'autres, si vous voulez, cas où évidemment c'est enfant, par exemple, E-N-F-A-N. Pourquoi?
Et c'est ça le grand mystère de la langue française. Bonsoir Agnès.
Oui.
Soyez la bienvenue Agnès, on vous écoute.
Bonsoir à tous, merci de me donner la parole. Donc je suis un ancien prof de lettres à la retraite et pour dédramatiser cet exercice de la dictée, j'ai eu un jour l'idée de proposer à mes élèves une dictée où ils auraient le droit de faire le plus de fautes d'orthographe possible.
Oh, j'aurais tellement aimé moi.
Le gagnant étant celui qui réussirait à en faire le plus. Alors je pense que...
Et alors, quel est le record, Agnès? Quel est le record?
Mais qu'en plus, ils ont dû réfléchir à la bonne orthographe pour pouvoir, bien sûr, commettre des fautes. Le problème, c'est que je n'ai pas pu renouveler cette expérience parce qu'il y a eu des plaintes de parents et le principal de mon collège m'a rappelé à mes devoirs. qui était de faire des dictées normales.
Pardon, hein, mais parfois, mais quelle tristesse, quelle immense tristesse.
Je voudrais savoir ce que les spécialistes réunis autour de cette table pensent de la valeur pédagogique de cette démarche.
Rachid, allez-y.
Je vous rejoins. Alors, il y a un exercice aussi qui est similaire. C'est de retrouver, de prendre un texte et de retrouver les fautes aussi. Et donc, ce jeu aussi
comme le jeu des 7 erreurs
voilà,
à l'échelle de la dictée.
Ça fonctionne. C'est vrai que là, de réfléchir et de faire la faute, faut déjà connaître l'orthographe, du mot, enfin des mots, les conjugaisons et tout. Donc, non, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est à partir du moment où c'est ludique, c'est un jeu et que ça nous enrichit, c'est le but. Il se trouve là.
Alain Mentolila, vous qui êtes prof, c'est aussi gloire et misère de l'éducation nationale parfois, en fait.
Oui, parce que si vous voulez, moi, quand un de mes étudiants, et c'est récent, dernier partiel, parce que nous faisons encore passer des partiels, voilà, nous ne sommes pas bloqués, donc. Et quand on m'écrit les classes 2S-ENT, les classes 2S-ENT, dans les classes, en master 2. Hein, et ça, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec ANEN. C'est vraiment les rouages de la pensée qui grippent quelque part.
Mais est-ce que vous sanctionnez ça, d'ailleurs, quand même, ou pas? Parce que, est-ce que c'est pas plus difficile? Et même, je vais vous poser la question différemment, même si vous ne voulez pas sanctionner au départ, est-ce que le simple fait de lire une copie truffée de fautes de ce genre, est-ce que, intuitivement, vous n'êtes pas tenté de mettre une autre note?
Alors, il fut un temps, quand j'étais jeune maître assistant, je sanctionnais. Systématiquement, en rouge, voilà, et je leur disais quand même, faites attention, etc. Bon. Les choses ont évolué et me sont tombées sous les yeux des copies qui étaient évidemment bourrées de fautes d'orthographe, mais qui ne voulaient rien dire.
Oui,
et je me suis rendu compte que finalement, les fautes d'orthographe, c'était pas bien, mais alors écrire à quelqu'un sur un sujet quelque chose qui ne signifie absolument
ça
rien.
Ça perd son sens, effectivement.
J'ai donné priorité à ça. Oui. Et mes dernières corrections, j'avais une centaine de copies, j'en ai eu 15 qui ont récolté, alors moi non plus je ne mets pas de zéro, oui, mais j'ai mis 2. 2 sur 20, je les ai reçus, chacun, pour leur expliquer. En leur disant, regardez, franchement, je vais vous lire votre copie, vous allez me dire. Mmh. Hein. Et ils m'ont dit, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai écrit ça. Et c'est-à-dire que cet acte d'expression pour l'autre était devenu quelque chose qu'ils étaient incapables de faire. Et à la limite, ils n'auraient pas fait de faute d'orthographe, ça aurait pas été mieux.
Oui, mais c'est un peu c'est aussi le problème, c'est ce que vous introduisiez tout à l'heure. Les correcteurs automatiques, les saisies au clavier, le téléphone, on est assisté. Donc du coup, effectivement, on perd la mécanique de l'orthographe, enfin de l'écriture.
Et bien sûr.
On y réfléchit plus, mais est-ce que, parce qu'on va avoir des questions, j'en ai déjà un certain nombre sur ce genre de sujet, c'est peut-être un peu une tarte à la crème. Est-ce que c'est vrai qu'on est moins bon que nos parents l'étaient en orthographe, ou est-ce que c'est une tarte à la crème, quelque chose qui finalement se vérifie assez peu?
Alors, si vous voulez, on a un certain nombre de choses importantes et intéressantes qui ont été des évaluations qui ont été faites à une distance de 25 ans à peu près. Hein. Et on voit très, très nettement, si vous voulez, que la chute. Alors, ça a chuté en orthographe grammaticale.
Et ça
chute en orthographe grammaticale que ça a chuté, c'est-à-dire tous les accords. D'abord, c'est là, si vous voulez, que la chute a été la plus dure. Mais la question, c'est pourquoi? Est-ce que c'était parce qu'il y avait une dictée régulière avant et beaucoup moins, voire pas du tout dictée aujourd'hui? Est-ce que c'est la valeur qu'on accorde à l'orthographe qui n'est pas la valeur que nos grands-parents accordaient à l'orthographe? Y a certainement un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux.
Bonsoir, Émilie.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y, Émilie.
Alors, moi, je suis enseignante en Saône-et-Loire, donc pour des CE1, CE2, et j'ose le dire, mes élèves adorent la dictée. Alors, en fait, dès le début de l'année, je leur ai proposé des formes de dictée assez différentes de ce qu'on de ce que j'ai en tout cas pu rencontrer moi quand j'étais élève. Mm-hmm. C'est-à-dire que, par exemple, je leur propose souvent des dictées négociées. Donc, ils prennent le texte de la dictée seule, mais le texte qu'ils ont produit, je ne le vois jamais, puisqu'après, ils sont en groupe. Et là, ils doivent négocier. Donc, c'est-à-dire se poser des questions.
On négocie des doubles M, des doubles consonnes, des S, etc.
Voilà.
Je te donne un M, tu me donnes un S.
Alors, c'est pas exactement ça, mais en tout cas.
Ils négocient quoi, en fait?
Alors, celui qui pense qu'on doit mettre ENT va essayer d'expliquer aux autres pourquoi il pense qu'on doit mettre ENT. Et les autres donnent leur accord ou pas. Et donc, tout le monde doit essayer de se mettre d'accord pour rendre, au final, un texte le plus propre possible. Et donc, ensuite, après, bon, on a une correction et c'est l'équipe entière qui a obtenu trois erreurs, cinq erreurs et tout ça. Et puis, j'ai d'autres formules aussi. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on a testé une nouvelle formule que j'appelle la dictée resto. Et là, je leur propose de choisir entre quatre formules. Donc, la formule plat, qui va être une dictée très simple. La formule entrée plat, donc encore assez facile, mais un petit peu moins. La formule entrée plat dessert, où là, on commence à avoir quelque chose avec pas mal de difficultés. Et la formule entrée plat fromage dessert, pour vraiment ceux qui n'ont peur de rien.
Et qui paye l'addition? Qui paye l'addition, du coup?
pour le moment, enfin, en tout cas, pour le premier test, ça
pour
a été...
Pour nous, c'est un peu l'heure de l'apéro, je vous dis ça comme ça, Émilie. Mais...
évidemment. Je pensais à ça, évidemment. Pour leur donner de bonnes habitudes. En tout cas, j'ai été très surprise parce que même les plus faibles, enfin, aucun n'a choisi la formule plat. Mmh. Les plus faibles ont choisi quand même la formule entrée plat en disant, si c'est raté aujourd'hui, tant pis, la semaine prochaine, je prendrai la formule en dessous, mais j'ai envie d'essayer. Et c'est vrai que ça a été un très bon moment et vraiment, ils sont contents de le faire et ils progressent vraiment tous et ça se voit vraiment.
Émilie, merci beaucoup. Autour de la table, vous faites que des heureux, en fait. Tout le monde est très content de votre expérience, Alain Bentolila.
Franchement, alors voilà, je préfère de loin ça au concours de faute. Hein. Honnêtement, pas pour faire de la peine à notre auditrice précédente, mais il y a dans ce que vous dites quelque chose d'absolument essentiel. C'est quoi? C'est que vous faites produire. Vous faites produire le même texte à, je suppose que vous travaillez avec une dizaine d'enfants en atelier, et vous faites ensuite examiner ces textes-là et vous en pointez les différences. Mmh. Non pas pour dire chacun écrit comme il veut.
Non, c'est pour réfléchir, amener la réflexion d'actualité.
Et amener la réflexion ensuite
aussi.
Et que chacun défende son point de vue. Et évidemment que la règle tombe.
Prévôt.
Évidemment. Ah oui. Vous voyez, cette démarche qui est une démarche, chacun fait quelque chose, nous regardons la diversité, et de cette diversité, nous parlons, nous discutons, et la règle s'impose, ça c'est une vraie belle démarche.
C'est un cheminement en fait.
Ah, c'est un cheminement. Appelle la métacognition. Pardon de jargonner, mais c'est la métacognition, c'est-à-dire savoir pourquoi on travaille.
Allez-y, Rachid Santaki.
Je voulais réagir. J'ai aussi des ateliers avant la dictée géante dans des classes où c'est un module de trois quarts d'heure qui s'appelle « Faut-il avoir peur de la dictée ?». Et je viens, donc je joue sur les registres de langage, j'interroge les élèves. Et j'ai eu un témoignage d'une enseignante qui m'a envoyé un message via Facebook avec laquelle justement on a mené cet atelier. Et elle me disait que depuis mon passage en classe, les élèves, en fait, ils ont une vraie curiosité pour l'orthographe, pour la dictée. Donc c'est exactement...
Mais c'est ça que je retiens aussi effectivement du témoignage d'Émilie. D'abord, c'est que ça peut être traumatisant, on va en entendre des traumatisés de la dictée d'ailleurs, mais il faut juste changer sa manière de faire, tout simplement, moderniser tout ça. Et puis il y a autre chose, c'est pas traumatisant de faire des fautes, c'est pas grave.
Non, ça fait
peut-être
partie.
Qu'il faut le répéter plus souvent.
Oui, mais elle n'est pas complaisante, cette astuce. Ça n'est pas complaisante.
Hein, c'est très différent.
Non, c'est un cheminement, la curiosité. C'est vraiment éveiller.
On discute et ensuite la règle est là. Et la règle, elle bouge pas d'un pouce. Hein. Oui. Tandis, si vous voulez, que dire « Oh, ben, chacun écrit comme il veut ». Non, chacun n'écrit pas comme il veut. Ça, il faut que ça rentre dans la tête de nos élèves.
Hein. J'avais une autre remarque aussi. Tout à l'heure, l'enseignante parlait de la difficulté. Et j'ai aussi le même cas, du coup, dans la dictée géante. J'utilise des textes du 18e avec des mots qui ne sont plus d'usage. Je pense à « pchuteux » ou « gommeux » qui ont été dans le texte.
« Pchuteux », ça veut dire quoi, d'ailleurs?
Alors, « pchuteux », c'était le terme, la définition. Là, vous me posez une colle.
Je vais chercher. Allez-y, finissez. Je vais chercher pendant ce temps parce que j'ai ce qu'il faut sous les mains.
Ces termes-là, en fait, qui ne sont pas du tout utilisés, les gens, en fait, les mots difficiles, ils ont une appétence pour ça. Et c'est assez surprenant. C'est de se dire, ce mot, je le connais pas, qu'est-ce que ça veut dire, etc.
Et comment l'orthographe. Et comment il s'écrit?
Exactement. Ah. L'orthographe, je m'en souviens. Mais du coup, la définition.
Allez, quelques traumatisés quand même de l'orthographe. Bonsoir Thierry.
Bonsoir France Inter.
On vous écoute Thierry, allez-y, j'espère que vous êtes remis.
Oui, alors j'ai repris votre émission en route, voilà. Moi, je suis un traumatisé de la dictée. Madame Johnny, ma prof de français quand j'étais en 6e, 5e, me collait royalement une note entre moins 20 et moins 40 à chaque dictée. Il faut dire que...
C'est effroyablement humiliant, en fait, ce genre de notes négatives, en fait.
Oui, oui. Alors, elle faisait l'attribution des copies en nommant les noms, enfin les prénoms des élèves avec les notes jusque 10. Et moi, j'étais dans le paquet en dessous de 10 dans lequel on ne donnait pas ma note, mais j'étais le dernier à savoir ma note à chaque fois. Ma copie à chaque fois. Et j'ai vraiment vécu ça de façon presque humiliante, parce que en plus, elle marquait le moins 20, enfin, elle notait ma note négative sur la feuille, et mon voisin de table la voyait systématiquement. Mmh. Alors paradoxalement, ce qui est drôle, c'est que pendant une partie de ma carrière, j'étais dans une entreprise allemande du nord de Metz, vraiment de la proche banlieue de Metz. J'étais le rédacteur en chef du journal Aterne, avec comme obligation de systématiquement envoyer les articles que je rédigeais à la secrétaire du chef du personnel qui me corrigeait les fautes avant de les poser sur le serveur. Parce que je pouvais pas les poser directement sur le serveur, c'était carrément, ça n'allait pas.
Et vous le viviez comment, honnêtement, Thierry ?
J'ai toujours vécu très mal. J'ai écrit une fois une lettre d'amour à Pascal, ma petite, la demoiselle que j'aimais à l'époque, et c'est quelqu'un d'autre qui a trouvé la lettre et qui l'a lue à haute voix en signalant systématiquement toutes les fautes que j'avais faites. Et Pascal était aussi gêné que moi quand elle a reçu la lettre, et enfin quand elle a la lecture de la lettre. Et je crois que c'est la seule fois où j'ai écrit une vraie lettre d'amour à une demoiselle de cette façon. J'ai toujours très mal vécu le français et les dictées. Ça a toujours été ma hantise pendant tout mon cycle scolaire.
Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage, parce que vous êtes très loin d'être le seul. Alain Bentolila, il y a quelque chose de, je vais le dire comme ça, c'est un peu se mettre à poil quoi. Quand on fait autant de fautes, parce que ça dit toute sa fragilité sociale, ça dit le concentré de faiblesse qui peut être les nôtres, et c'est super humiliant.
Oui, mais c'est pour ça que ce que nous disait notre dernière auditrice était très intéressant, parce que on avait non pas cette idée que finalement, bon, c'est pas grave, et on passe, mais là, il y avait vraiment une analyse des différentes fautes, du pourquoi des fautes, etc. Mais je pense que ce monsieur qui nous téléphone là, on n'a jamais dû lui dire à quoi servait l'orthographe. À quoi ça sert l'orthographe ? C'est-à-dire, véritablement, il y a des tas de choses auxquelles on peut répondre, parce qu'autrement, on dit, ça s'écrit comme ça, parce que, point à la ligne. Alors, il y a des cas où ça s'écrit comme ça,
point à la ligne.
Et il y a des règles d'orthographe qui, au contraire, peuvent s'expliquer. Par exemple, un peu plus tard, l'étymologie des mots est une formidable source d'explication de l'orthographe. Hypo 1P ou hypo 2P, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est quelque chose d'important. Même encre EN, encre AN, c'est pas inutile. Savoir que c'est le mot pluriel qui est le sujet du verbe parce que le verbe est au pluriel, c'est intéressant. Que l'adjectif, c'est celui-là qui... Tout ça donne de la cohérence
le sens à la langue.
Le sens, exactement.
Est-ce que ça dit dans des personnes comme Thierry, par exemple, ça veut dire qu'on passe une vie sans oser écrire, finalement, sans oser s'exprimer par l'écriture ? C'est quand même terriblement dommage.
C'est malheureusement la mauvaise rencontre qui peut se faire quand on est en primaire, et qui va être un très mauvais départ. Et du coup, moi, j'ai le même problème avec les maths, tout simplement. Donc du coup, quand on a été exclu et humilié surtout...
Mais ça dit la même chose, en effet. C'est, quand on ne comprend pas les maths, ça dit la même chose.
Voilà,
effectivement,
oui, moi, j'ai ce problème-là avec les maths.
Exactement, qu'on
ne
comprend
donc,
pas pourquoi il y aurait un L ou deux.
Quand on n'a pas trouvé la bonne personne pour nous, justement, expliquer les règles et nous donner envie, on va être exclu. Et là, le témoignage de la lettre d'amour, c'est révélateur. C'est, voilà, c'est terrible aussi. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous poursuit toute notre vie. D'ailleurs, je voulais demander justement à notre auditeur où est-ce qu'il en était avec l'orthographe.
Thierry, vous êtes encore là ?
Je croyais que c'était avec sa copine.
Je suis encore là.
Comment ça va l'orthographe maintenant ? Est-ce que ça va mieux ou pas ? Ou est-ce que vous avez des stratégies de contournement ?
Alors, j'ai pas le choix. Je suis obligé de trouver des systèmes pour mémoriser certaines écritures. Les lettres jumelles, par exemple, pour moi, ça a toujours été une abomination. Mmh. Pourtant, je lis beaucoup. Je suis régulièrement le nez dans un livre. J'avais lu tout Jules Verne avant mon arrivée en 6e. Mmh. Mais malgré ça, je n'ai jamais réussi à photographier les mots et à les réécrire correctement. Mmh.
Et du coup, comment vous avez appris à lire, monsieur ? Pardon. Quelle méthode de lecture vous avez eue ? Vous vous rappelez un peu ou pas du tout ?
Par syllabe. Par syllabe.
Voilà. Alors, c'est très intéressant ça, vous voyez, parce que on est aujourd'hui dans une espèce de
ça va très vite.
D'élan extraordinaire pour la syllabique. Oui. Bon, très bien, ok. Et effectivement, ça donne quelques résultats intéressants. Sauf que la syllabique, c'est-à-dire les relations entre les lettres,
c'est le béaba, et les sons, littéralement.
Le béaba, ouais. Voilà, exactement. Ça donne une écriture qui est une écriture. Si on ne fait que de la syllabique, ça donne une écriture qui est quasiment phonétique. Mm-hmm. Par définition, ouais. Ça devient phonétique. Maison, si vous voulez, c'est
MESON, pourquoi pas.
MESON, sinon Z. Hein, ouais, bon, ouais. Mais voilà. Et cette façon de faire. C'est-à-dire cette non-reconnaissance des mots dans leur orthographe. Vous disiez quelque chose de très juste tout à l'heure, c'est finalement, plus les mots sont difficiles, plus ils sont peu fréquents, et plus ça intéresse les gens. Mmh. C'est-à-dire les écritures bizarres sont... Voilà.
Ça, je rejoins aussi ce que vous disiez tout à l'heure. Ces élèves aujourd'hui, avec le digital, on est dans quelque chose d'uniforme. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de relief, il n'y a plus de goût, on ne va pas essayer de comprendre. Et donc, du coup, c'est la problématique, en fait, dans cet apprentissage, enfin, cette forme-là, c'est qu'on est...
On n'essaye pas de comprendre, mais dans un cas comme Thierry, ça sauve un peu la vie, quand même, un correcteur d'orthographe.
Hein, non. Parce que là, du coup, c'est essayer de trouver des solutions. C'est comme la personne qui ne sait pas lire. Mm-hmm. C'est essayer de trouver des solutions.
C'est stratégie de contournement.
On contourne, mais réellement, le cœur du problème, c'est de comprendre, en fait, de donner un sens. Et du coup, on peut avoir une vie comme ça. C'est quand même hyper compliqué.
Bonsoir, Xavier.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Allez-y, Xavier.
Bon, alors, donc, moi, là, j'ai 55 ans. À 10 ans, j'ai été détecté dyslexique, dysorthographique. Je savais ni lire ni écrire.
Dysorthographique.
J'ai fait de la rééducation dans un IMP et après j'ai suivi un cycle 6e, 5e, 5e. En 5e, j'ai eu un prof de français qui me faisait faire qu'un petit bout de la dictée et à chaque fois j'avais zéro. Et à chaque fois il me rendait ça avec mépris et dédain. Oui. J'avoue que ça m'est resté quelque chose de terrifiant.
C'est un trauma.
Pour autant, au même moment, j'ai eu une prof d'histoire géo qui m'a permis de rendre tous mes devoirs dessinés. Et ça m'a montré que je pouvais avoir 18 et 19 de moyenne dans une matière sans l'écriture. Après, j'ai continué mes études, j'ai fini architecte, hein, donc bac plus 6. Et la dernière étape, c'était il y a 4 ans, j'ai voulu faire un doctorat pour donner des cours d'architecture dans un domaine très spécialisé. Assez rapidement, il y a un professeur qui s'est aperçu que j'étais dyslexique. Il en a parlé à mon directeur de thèse et on m'a dit... il faut que vous ayez un niveau minimum en français pour continuer le doctorat. Donc au bout de 2-3 semaines, j'aurais dit, bon ben, c'est impossible pour moi, c'est même pas imaginable. Et aujourd'hui, là, je viens de terminer un livre qui parle du sujet que j'aurais dû aborder dans mon doctorat, aidé par une journaliste. Alors je voulais simplement donner une petite chose pour les enseignants. Quand vous corrigez un dyslexique dysorthographique, corrigez-lui les mots justes. Mmh. Vous allez voir, vous allez être surpris. Parce que moi, mot juste ou mot faux, ça veut rien dire du tout.
C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que vous dites, Xavier, pardon. Corriger les mots
justes. Par exemple, quelqu'un me corrige un mot qui est censé être juste, je vais le corriger. Il me dit, il y a une faute. Pour moi, il y aura une faute, parce que j'en sais rien, en fait.
Ah, d'accord. Oui, en fait, de faire la correction pour que vous puissiez assimiler le mot.
Le lire à haute voix.
C'est ça que vous voulez le corriger, tout simplement, le réécrire, oui.
D'accord.
Mais je sais jamais comment ça s'écrit.
Oui, d'accord. Oui. Parce qu'en fait,
pas loin de chez moi, il y a un rond-point où il y a deux villages qui commencent par les trois premières lettres. J'ai mis 6 ans à trouver des points de repère autres que les lettres pour trouver la bonne direction des villages, quoi.
Et la lecture ?
À la lecture, je suis nul. J'ai eu la chance pendant une dizaine d'années d'avoir une compagne qui m'a lu des dizaines de livres, dont un livre qui m'a énormément ému, c'est Chagrin d'école.
Oui.
Ça m'a vraiment bouleversé. Et puis elle m'a lu plein de livres. J'ai dû avoir accès à une soixantaine de livres, alors que j'ai dû en lire une petite vingtaine ou trentaine dans toute ma vie.
Vive les livres audio, Xavier, à ce stade, sérieusement.
Bah, j'ai du mal avec les livres audio parce qu'il y a un problème de concentration.
Ah, à quel âge est-ce qu'on a diagnostiqué clairement votre dyslexie et dysorthographie ?
10 ans.
10 ans, c'est très tard.
Les instituteurs n'ont pas compris comment je faisais avant pour arriver à m'en sortir. Je me rappelle plus comment c'était. Alors,
pour vous dire les choses de façon simple, si vous voulez, la dyslexie concerne la plupart du temps des enfants très intelligents. Plutôt très intelligents.
C'est un gros QI.
Oui, ça ne m'étonne pas. C'est bien là, c'est bien ça. Et il est aujourd'hui une théorie assez juste à laquelle je ne suis pas loin d'adhérer et qui est la suivante. Ces enfants très intelligents sont des enfants trop curieux. Et donc, vous allez me dire si ça vous concerne ou pas. Ils ont à écrire un mot, tous les choix possibles leur apparaissent égaux. Mmh. Pourquoi ça ne s'écrit pas comme ça ? Et comme on ne leur dit jamais curiosité. Pourquoi ça s'écrit comme ça ou pourquoi ça ne s'écrit pas. Donc tout est possible. Tout s'embrouille. Oui, oui,
oui. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais aujourd'hui, j'ai laissé tomber tout ça. J'écris comme ça me vient, et puis si les gens ne sont pas contents de ma façon d'écrire, ben tant pis.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais c'est simplement parce que ça n'est pas une question d'intelligence. C'est ça qu'il faut bien dire et répéter. Ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence. Ça a à voir, au contraire, peut-être, avec une trop grande interrogation de l'écriture. Hein, parce que si à chaque fois que vous avez à écrire, vous vous dites ça pourrait s'écrire autrement. Et le pourrait s'écrire autrement fait que tout se mêle.
Oui, on s'arrête plus. Mais c'est ça, hein, du coup, l'exercice de la dictée, c'est de réussir à. Et c'est pour ça que la pratiquer régulièrement, ça évite de se poser des questions. Absolument. C'est qu'on écrit, on pratique, et donc du coup, on connaît les mots en fait. Ouais. On fait des fautes et on se pose. On n'a plus le doute. Je dis souvent que la dictée, à partir du moment où on a un doute, c'est là que les problèmes commencent.
C'est là qu'on s'arrête. Cela dit, moi, je retiens du témoignage de Xavier qui a aussi des profs formidables, parce que je pense à cette prof d'histoire qui lui dit, dessine au lieu d'écrire, juste au moins pour se rendre compte que, je suis pas plus bête qu'un autre. C'est quand même fou. Il y en a des profs comme ça et c'est quand même formidable. Bonsoir, Françoise.
Bonsoir.
On reste dans la série des gens qui ont été traumatisés. On vous écoute.
Oui, on en a beaucoup d'ailleurs.
Attendez, ça va s'arrêter. Allez-y, Françoise.
Alors moi, je suis dyslexique, mais en fait, j'ai jamais été diagnostiquée vraiment. On me l'a suggéré quand j'avais une quarantaine d'années, quoi. Quand j'ai pété les plombs de façon extrêmement gravement, j'ai commencé à écrire. Alors moi, j'ai vraiment fait un complexe d'infériorité intellectuelle lié vraiment à ça, en fait. Mais j'ai toujours eu énormément de mal à apprendre. Bon, j'avais d'autres raisons, malheureusement, de bonnes raisons d'être en échec scolaire, mais il y avait ce problème de dyslexie, et c'est à 40 ans, en fait, qu'on m'a laissé entendre que c'était probablement ça qui était à l'origine de pas mal de mes problèmes. Alors, une fois que j'ai commencé, par contre, à prendre goût à l'écriture, je m'arrête plus maintenant. Donc, j'ai pas mal de sites internet, etc., et j'écris vraiment pour le plaisir, quoi. Mais j'ai été quand même, pendant plusieurs années, à partir des 40 ans, j'ai été pendant plusieurs années où chaque article, je devais le relire, je sais pas, 4, 5, 6, 7 fois, quelquefois. C'était vraiment... donc ça a mis quand même des années à se corriger. Et je suis toujours dyslexique, bien évidemment. Alors par contre, quand j'avais recommencé à peindre à 40 ans, parce que je fais de la calligraphie contemporaine... Et donc, j'avais écrit faute d'orthographe, mais alors avec le plus de fautes possible. Parce que je me suis dit, quitte à en avoir vraiment chié, entre guillemets, j'avais choisi d'en rire, quoi. Donc, j'écris faute, F-O, accent circonflexe, d'ortho sans H, graphe avec 5 E-F, enfin bref, avec un livre qui vole, etc., avec un paysage derrière. Et à un moment, j'avais exposé dans une galerie marchande, enfin, parce que j'aime bien exposer dans les endroits où inhabituels, disons, où il y a des gens qui peuvent voir ce que je fais, alors qu'ils n'entreraient pas dans une galerie. Pour moi, c'est important. Et donc, c'était super marrant d'observer les gamins qui tenaient la main de leur maman, et puis ils regardaient c'est le tableau, alors ils avaient la bouche entrouverte, puis d'un seul coup ils me regardaient l'air polisson en se marrant, parce qu'ils avaient compris en fait le truc, et alors il y avait la maman qui jetait un œil réprobateur, en leur disant mais faut pas, et en fait c'était vraiment drôle de voir les enfants rire d'un mot avec plein de fautes.
Rachid Santaki.
Ce que je trouve extraordinaire par rapport au précédent auditeur, c'est que vous avez détourné ça. Vous l'avez détourné, vous vous en amusez et vous avez l'air épanoui. Donc c'est aussi, il y a ce complexe en fait. Soit on est traumatisé, on a eu des mauvaises notes, on a été sanctionné, humilié et du coup on est isolé. Soit on en sort un moment.
Il y a l'idée de mettre les mots en fait. Hein. Quand on dit, quand on comprend qu'on est dyslexique et que donc on n'est pas plus stupide qu'un autre, j'imagine que ça change tout.
Vous inversez les syllabes encore
Françoise.
Ou pas?
Moi, j'ai un la dyslexie, elle se manifeste surtout dans mon problème à mémoriser les noms des gens. J'ai des amis, j'ai encore vu une amie au marché ce matin, c'est une amie que j'ai depuis 15 ans. Je lui dis, est-ce que tu sais que je suis pas capable de dire comment
d'accord.
tu t'appelles.
Ok, donc c'est un problème de mémoire visuelle. C'est vraiment un problème de mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ne reconnaissez pas le visage, le nom et le visage des gens, vous ne faites pas cette association de la même façon que vous n'associez pas le visage d'un mot avec son sens. Et donc là effectivement, on aurait dû vraiment vous prendre en main et vous faire travailler sur cette mémoire qui associe, quoi. C'est la mémoire associative.
Allez, un dernier appel, c'est celui de Philippe. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute,
bonsoir,
allez-y. Philippe.
Eh bien écoutez, moi je suis ancien enseignant de lycée professionnel et donc j'ai accueilli des élèves et des groupes qui n'étaient pas qui étaient plus en rupture de l'école et j'avais besoin de les réconcilier avec justement l'orthographe, avec tout ce qui comporte la communication. Et d'emblée, lorsque à l'époque on faisait des dictées et puis ensuite je les poursuivis dans les exercices d'écriture, je leur proposais un objectif, c'était de savoir si aujourd'hui on accordait le verbe avec le sujet ou si on accordait l'adjectif avec le nom, enfin le nom avec l'adjectif plutôt. Je ne pénalisais pas le reste et donc au niveau de la pratique de l'écriture, je leur fixais des contraintes qui étaient négociées et à ce moment-là, ils ont progressé.
Merci beaucoup,
ça,
Philippe.
C'est une bonne idée, ça.
On boucle notre boucle en fait sur le pas de contraintes et pas de sanctions en fait dans ce que nous dit Philippe. Alain Bentolila.
Oui, et le problème est aussi celui-là, c'est-à-dire que quand vous demandez à un enfant écris pour moi et que vous lui demandez par exemple de faire ce qu'on appelait de mon temps une rédaction, jour de fin promenade dans les bois,
ça s'appelle toujours comme ça, j'imagine,
à l'automne, enfin,
peu importe.
On ne peut pas lui dire écris pour moi et en même temps le sanctionner à chaque mot. Une dictée est une dictée. Oui. Quand on est en dictée, il y a des règles.
Oui,
et
on le rappelle, c'est un espace pour.
On cherche des approches les meilleures possibles pour que ces règles soient intégrées. Mais quand on demande une expression par écrit, alors il faut mettre son orthographe dans sa poche et donner priorité à la. Enfin, prendre ce truc et le lire à tout le monde en disant écoutez comme c'est beau.